Voilà, nous commencerons la lecture par la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. En Corinthiens 15, verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Alors, Évangile selon Jean, chapitre 1er. Verset bien connu. Jean 1, verset 14. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 2. Chapitre 4, verset 2. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. Dans la même épître, au chapitre 2, le verset 16. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, encore deux passages dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 5. Car, quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. Chapitre 8, verset 8. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Jusque-là.
Peut-être j'aimerais qu'on lise aussi dans le chapitre 7 des Romains, le verset 18. Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. Et puis au chapitre 8, au verset 7, la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Très important d'arriver à cette conclusion. C'est ce que le croyant du chapitre 7 de Romains, il est arrivé à cette conclusion, à cette certitude, je sais qu'en moi, il n'habite, en ma chair, il n'habite point de bien. Il faut arriver à cette conclusion inéluctable. On risque de chercher encore du bien en nous. La chair n'est pas améliorable. Elle ne peut pas s'améliorer. Elle est inimitié contre Dieu. Elle ne peut pas même faire quelque chose de bien pour Dieu. Et c'est un constat qu'il faut arriver à faire. Plus jeune on le fait, mieux c'est. Mais arriver à cette certitude, je sais qu'en moi, il n'y a point de bien. Et alors ensuite, on peut s'ouvrir à l'action de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas ? Et c'est dans cette mesure-là qu'on pourra plaire à Dieu. Mais déjà, arriver à cette conclusion, à cette certitude, qu'en nous, dans la chair, il n'y a point de bien, Elle est inimitié contre Dieu. Elle ne peut pas s'améliorer.
Le sujet qui est devant nous cet après-midi, c'est la chair. Et la première question qui se pose, que signifie cette expression ? C'est un terme biblique qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et en lisant ces passages que nous venons de lire cet après-midi, nous voyons déjà que la signification n'est pas toujours la même. Il faut distinguer. Que signifie la chair ? Dans l'Ancien Testament, la chair, c'est souvent l'humanité dans son caractère fragile et éphémère. Et cette expression se retrouve aussi dans le Nouveau Testament. La chair, l'humanité dans son caractère fragile et éphémère. 1 Pierre 1 ou 2, toute chair est comme l'herbe, n'est-ce pas ? C'est un exemple. Une deuxième signification, la chair peut signifier la chair qu'on mange, la chair des animaux que nous mangeons, qu'on peut acheter à la boucherie. 1 Corinthiens 10, par exemple, la chair qu'on achète pour la manger. C'est aussi une expression, la chair. La chair peut aussi signifier le corps naturel de l'homme. Chair et sang, nous connaissons cette expression. Chair et sang, c'est notre chair, le corps du chrétien. La chair peut aussi signifier un homme et ne pas un esprit. Un homme, l'humanité, un homme. Âme, esprit et corps. Et quand nous avons lu dans l'Évangile selon Jean, la parole devint chair, ça signifie le Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu, il est devenu homme, homme parfait, avec une âme, avec un esprit et avec un corps. L'homme, la chair, Dieu est devenu, la parole est devenue chair. Et une dernière signification, c'est ce que nous avons lu dans l'Épître aux Romains, la chair ou le péché, c'est la vieille nature. C'est la mauvaise nature que nous avons héritée de notre premier père, Adam. Après la chute, la chair, la vieille nature, le péché est dedans, au-dedans de nous. Et dans cette chair, dans la vieille nature, il n'y a rien du tout qui peut plaire à Dieu. Ce sont quelques significations de cette expression « chair » et nous voyons, il faut les distinguer, n'est-ce pas ? « Chair » ne signifie pas toujours la même chose. Et quand nous avons ces versets devant nous, il faut les distinguer. Comme je viens de dire dans ce passage, dans l'Évangile selon Jean, qui nous occupe, la parole devint chair, c'est le Seigneur Jésus, la parole, le Fils de Dieu, le Fils éternel qui est devenu homme, qui s'est abaissé. Il était toujours et il est toujours la parole, mais il est devenu ce qu'il n'était pas. Il est devenu homme. Quel abaissement! Il s'est anéanti lui-même, comme nous lisons dans l'Épître aux Philippiens. Dieu se fait homme au saint mystère que son peuple adore à genoux en considérant un tel verset.
L'Épître aux Galates nous montre ce que sont les fruits de la chair. Au chapitre 5, on voit qu'il n'y a rien de bien. C'est au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Lesquelles sont ? La fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance que, comme aussi je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. En contraste, il y a les fruits de l'esprit, les fruits de ceux qui ont la vie nouvelle et qui ne laissent pas la chair agir. C'est l'amour, la joie, verset 22, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi.
J'aimerais revenir sur le verset que notre frère a lu en Romains 7, verset 18. « Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. » C'est vraiment un point de rupture quand un homme en arrive à faire cette expérience, à reconnaître ça. Et je voulais simplement faire un lien avec quelque chose qu'on trouve dans l'Ancien Testament, en Lévitique 13. Lévitique 13 nous parle de la loi du lépreux. Et il y a là quelque chose de tout à fait étonnant, qui nous parle de la grâce de Dieu. Lévitique 13, verset... Je lirai à partir du verset 9. S'il y a une plaie comme de lèpre dans un homme, on l'amènera au sacrificateur, et le sacrificateur le verra. Et voici, il y a une tumeur blanche dans la peau, et elle a fait devenir blanc le poil, et il y a une trace de chair vive dans la tumeur. C'est une lèpre invétérée dans la peau de sa chair. Alors le sacrificateur le déclarera impur. Il ne le fera pas enfermer, car il est impur. Et si la lèpre fait éruption sur la peau, et que la lèpre couvre toute la peau de celui qui a la plaie, de la tête aux pieds, autant qu'en pourra voir le sacrificateur le verra. Et voici, la lèpre a couvert toute sa chair. Alors, il déclarera pur celui qui a la plaie. Il est tout entier devenu blanc, il est pur. C'est merveilleux. À partir du moment où l'homme reconnaît cela, je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien, la grâce de Dieu peut agir. À partir du moment où on reconnaît qu'il y a la nécessité qu'il y ait une intervention extérieure, eh bien, c'est exactement ce qu'on lit en Romains 7. « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et juste derrière, « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » La voilà la solution. Et alors est révélé dans le chapitre 8 le moyen d'être délivré de cette chair terrible, c'est-à-dire une autre puissance qui est l'Esprit de Dieu.
Juste revenir sur quelque chose qui a déjà été évoqué. Je pense que on a parlé de la chair en disant on peut parler de la chair, on peut parler de l'Esprit, de ce qui est de la chair, mais aussi positivement de ce qui est de l'Esprit. Il semble que dans plusieurs passages, dans les passages qu'on a lus, on peut voir la chair, mais il y a la pensée de ce qui est en contraste ou de ce qui vient éclairer d'une manière différente et nous montrer ce qu'est la chair. Je pense même simplement au premier passage qu'on a lu dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, où nous lisons, on a lu, donc « Toute chair n'est pas la même chair », Corinthiens 15, verset 39, « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons, etc. » On peut penser qu'il y a une sorte de comparaison qui est établie, mais on peut réaliser que cette comparaison, elle va peut-être plus loin que l'impression qu'on en a superficiellement. Autre est la chair des hommes, autre est la chair des animaux. L'homme n'est pas un animal L'homme ne peut pas être confondu avec un autre animal, entre guillemets. Il est différent. Dieu a créé l'homme d'une manière telle qu'il soit différent d'un animal. Autre est la chair des hommes, autre celle des animaux. Ça ne veut pas dire que dans son organisation physique, l'homme ne soit pas comparable à un animal. L'organisation physique, c'est une chose, mais sa personne, son existence, sa personnalité, la chair, telle qu'elle est définie, est différente. Et on ne peut pas dire « l'homme est un animal ». L'homme est un animal comme un autre. Non, Dieu fait une différence entre l'homme et l'animal. Autre est la chair de l'homme, autre celle de l'animal. Et c'est important aujourd'hui de nous en souvenir, parce qu'aujourd'hui, il y a tout le courant de la pensée humaine, c'est de confondre l'homme et l'animal. Mais Dieu dit non, il y a des choses qui sont différentes. Et ensuite, il développera cette... Alors, l'apôtre continuera dans le chapitre 15, mais ce n'est pas le sujet, sur cette différence entre le corps dans lequel nous sommes aujourd'hui et le corps spirituel, le corps de gloire qui sera le nôtre. Mais déjà, il pose cette différence et c'est important. On a bien dit tout à l'heure, la chair évoque, dans un premier sens, l'homme dans sa fragilité, mais c'est bien l'homme, ce n'est pas l'animal. Toute chair ayant en elle souffle de vie, je crois, dans la Genèse, peut effectivement désigner tous les êtres vivants créés. Mais... quand nous avançons dans le Nouveau Testament, autre est la chair de l'homme, autre celle des bêtes. Ensuite, donc, nous avons effectivement dans ce merveilleux passage du début de l'Évangile selon Jean, nous avons la parole devint chair. Mais ce verset s'éclaire, si on peut dire, par le tout début, qui est celui qui est devenu chair ? Et on voit cette distance infinie entre celui qui est la parole, qui était de toute éternité, auprès de Dieu qui est Dieu et qui est devenu chair. Et bien dire que la puissance, la parole devint chair, c'est éclairer d'une manière merveilleuse ce que représente la venue du Fils de Dieu comme homme parmi nous. C'est éclairé d'une manière merveilleuse par le tout début de ce chapitre qui nous montre qui est la personne qui est devenue chair. Et puis, donc, nous avons ce contraste aussi. Chaque fois qu'il est question de la chair, finalement, nous avons l'impression que cela nous est, pour comprendre de quoi il s'agit, nous voyons le contexte, quelque chose qui vient ou l'éclairer ou être en contraste. Et bien sûr, il y a, en Romains 7 et 8 en particulier, et dans Galates, ce contraste entre la chair et l'esprit. La chair, c'est véritablement ce qui, on l'a dit, c'est notre vieille nature, c'est ce que nous avons hérité d'Adam. La chair, ce n'est pas simplement quelque chose de physique. Il y a la volonté de la chair et des pensées. Il y a la chair qui ne se soumet pas à la loi de Dieu parce qu'elle ne le peut pas. Il y a donc une volonté qui est liée à la chair dans ce sens-là. Et en contraste, pour le croyant, il y a effectivement ce fait de vivre par l'esprit, de marcher par l'esprit, parce que l'esprit est en nous. Et c'est toujours ce contraste, et puis de même que nous sommes devant Dieu, nous pouvons être dans la chair, mais nous pouvons être aussi dans l'esprit. Et c'est la position, Dieu nous a pris de la position qui était celle de l'homme naturel, l'homme en Adam, l'homme descendant d'Adam pécheur, pour nous placer dans cette nouvelle position dans laquelle nous sommes. Le contraste ou l'éclairage qui nous est donné nous aide à mieux comprendre ce que c'est que la chair dans ces différents passages, à ne pas les mélanger, et à éclairer ce que c'est effectivement que la chair, mais aussi à éclairer ce que la grâce de Dieu et la puissance de Dieu a fait pour nous, a fait en nous et a fait de nous.
Ich möchte versuchen, eine Linie zu zeigen zu diesem Thema, das Fleisch.
Je voudrais souligner quelque chose au niveau de ce sujet, la chair.
Und weil es etwas kompliziert ist, kann ich es nicht gut auf Französisch.
Et parce que cela est compliqué, je ne peux pas bien l'expliquer en français.
Bitte das zu entschuldigen.
Oui, excusez cela.
Ich möchte zuerst einen Vers aus Epheser 2, Vers 3 lesen, wenn du den lesen würdest. Epheser 2, Vers 3.
Je voudrais d'abord lire un verset dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 3. Parmi lesquels... Nous aussi, nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées. et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres.
Paulus sagt hier, dass wir einst alle.
Donc Paul dit ici que nous étions une fois tous.
Also Paulus und die Briefempfänger, die Epheser, die Gläubigen.
Donc Paul et ceux qui ont reçu la lettre écrite aux Éphésiens.
Waren in der Vergangenheit alle.
Ils étaient tous dans le passé.
In dem Fleisch.
Dans la chair.
Und das Fleisch kann, wie wir aus Römer 8 gehört haben, nur Böses und Schlechtes hervorbringen. Römer 7.
Et la chair, comme nous l'avons vu en Romains 7, ne peut être que mauvaise.
Und das ist wichtig für uns, dass wir uns das merken. Das Fleisch hat geistlich gesehen in Gottes Wort immer eine negative Bedeutung.
Et cela est important pour nous de considérer comme Dieu considère que la chair a toujours et toujours négative.
Und wenn wir jetzt Johannes 1, Vers 14 genommen haben,
et lorsque nous prenons le passage de l'Évangile selon Jean, le premier chapitre au verset 14,
und diese Brücke gesehen haben, dass das ewige Wort Fleisch wurde,
et ce que nous avons vu que la parole éternelle est devenue chair,
dann ist die Lösung auch hier eben der Herr Jesus.
La solution est alors ici aussi le Seigneur Jésus.
Aber natürlich nicht nur, dass er Mensch geworden ist, sondern auch, dass er ans Kreuz gegangen ist.
Et pas seulement qu'il est devenu chair, homme, mais qu'il est allé sur la croix.
Und jeder, der heute an das Kreuz kommt von uns,
et aujourd'hui, chacun de nous qui venons ou qui sommes venus à la croix,
der dem Herrn Jesus seine Sünden bekennt,
et qui confesse ou qui a confessé ses péchés au Seigneur Jésus,
der kann hier wie Epheser 2 von einst sprechen.
Il peut parler comme dans ce passage qu'on a lu, ce verset, qu'il était autrefois ainsi dans la chair.
Und er bekommt im gleichen Moment den Heiligen Geist.
Et au même moment, il reçoit l'Esprit Saint.
Und damit ist er in der Kraft zu wandeln nach dem Geist.
Et alors, il a la capacité de marcher par l'Esprit.
Das ist das, was wir gerade gehört haben als Gegensatz zwischen Fleisch und Geist, Galater 5, Vers 17.
C'est ce que nous avons entendu, le contraste qu'il y a entre la chair et l'esprit en Galates 5.
Il me soit permis d'exprimer encore quelques pensées sur ce beau verset, Jean 1, verset 14, parce que c'est vraiment une des pierres précieuses dans la parole de Dieu. Il nous est dit « la parole devint chair ». Qui est devenu chair ? La parole. Jean commence cet évangile « Au commencement était la parole ». C'est le Fils d'éternité, le Fils de Dieu. La parole, l'expression de ce que Dieu est. C'est la parole, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. La parole. Il est devenu chair. Il est devenu homme. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dans la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils. Et il est né un homme parfait, un homme humble. Le Seigneur Jésus, Dieu et homme, mystère insondable. Et nous pouvons poser la question, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus est-il devenu homme? J'aimerais donner trois réponses. La première, il est devenu homme pour être le seul médiateur entre Dieu et homme. Le Seigneur Jésus, l'homme Christ Jésus, le médiateur entre homme et Dieu. Dieu avait créé toute chose par une parole, mais pour accomplir la rédemption, il a fallu l'incarnation du Fils de Dieu. Il est devenu homme pour mourir, pour pouvoir mourir. Dieu ne peut pas mourir. Le Seigneur Jésus, il est devenu homme pour être notre médiateur. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha, pour nous sauver. C'est la première réponse à la question « Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus est devenu homme ? Pourquoi la parole est devenue chair ?» pour nous sauver. Chers amis, quelle joie, quelle allégresse de voir le Seigneur Jésus comme homme qui est mort pour nous, le médiateur. Une deuxième réponse, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus est devenu homme ? Pour nous donner un modèle. Nous avons un modèle parfait, l'homme Jésus-Christ. Il est devenu ce que nous sommes, un homme. Et nous suivons le Seigneur Jésus et il nous a laissé un exemple. La vie du Seigneur Jésus est un exemple et il faut contempler la vie du Seigneur Jésus comme homme sur la terre pour suivre les traces que le Seigneur Jésus nous a laissé. Troisième réponse à cette question, pourquoi le Seigneur Jésus est-il devenu homme ? Pour être un sacrificateur miséricordieux. Il a été éprouvé comme nous. Il nous comprend très bien. Maintenant, il est élevé à la droite de Dieu, mais il est notre sacrificateur, le souverain sacrificateur miséricordieux. Parce qu'il était éprouvé comme nous aujourd'hui. Quelle expression ! La parole devint chair et habita au milieu de nous. Le Seigneur Jésus, il a habité sur la terre. Pourquoi cette expression « il a habité » ? Là où on habite, on se révèle, n'est-ce pas ? Pour me connaître vraiment, il faut venir là où j'habite. Là où on habite, on se révèle. Le Seigneur Jésus s'est révélé. Il a révélé Dieu. Il a habité au milieu de nous, pécheurs, pleine de grâce et de vérité. Grâce et vérité, les deux choses parfaitement visibles dans la personne du Seigneur Jésus, dans sa vie comme homme sur la terre. Dieu est le Dieu de grâce, le Dieu de vérité. Dieu est amour et Dieu est lumière. Et le Seigneur Jésus, en habitant sur la terre, a révélé ses traits, ses caractères de Dieu, grâce et vérité, amour et lumière. Et entre guillemets, il est dit, nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Ceux qui ont cru le Seigneur Jésus, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, ceux qui ont reçu la vie éternelle, comme les disciples, ils ont vu la gloire. Mais pas la gloire du Fils de l'homme aussi, mais ici, il est dit la gloire d'un Fils unique de la part du Père. Ce n'est pas le Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus, il est le Fils de l'homme. Mais ici, il est le Fils du Père. Et ceux qui ont contemplé le Seigneur Jésus, ils ont été impressionnés par la gloire de cette personne glorieuse, homme parfait et humble, et en même temps, le Fils unique, incomparable, le Fils unique de la part du Père.
Nous avons vu tout à l'heure dans l'Ancien Testament que notre chair pouvait être malade. Nous avons lu aussi dans les Épîtres comme quoi la chair convoite contre l'esprit. Et là, nous venons de voir que le Seigneur Jésus, enfin la parole, devint chair. Est-ce que le Seigneur Jésus aurait pu être malade ? Est-ce que le Seigneur Jésus aurait pu avoir ses convoitises ? Alors nous avons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, pour faire suite au à ce que notre frère vient de dire, il a été tenté comme nous à part le péché. Le Seigneur Jésus avait ses tentations extérieures, Satan est venu, le monde était là, il y avait ses vexations, il y avait ses disciples qui ne l'ont pas reconnu, c'était les tentations extérieures. Mais le Seigneur Jésus, il était sans péché. Et la parole est très précise quand en Philippiens 2, il est dit en ressemblance, pour ne pas le déformer, je vais lire le verset. Le Seigneur Jésus, en Philippiens 2 et au verset 7, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, ayant été trouvé en figure comme un homme. Le Seigneur Jésus a pris notre corps d'humanité, mais un corps d'humanité sans péché. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, encore au chapitre 2, nous voyons qu'il a été fait semblable à ses frères. C'est important parce que parfois dans la chrétienté, on peut laisser supposer que le Seigneur Jésus aurait pu avoir des maladies et Dieu l'a protégé. Son corps aurait pu être corrompu, mais Dieu l'en a empêché, comme on voit dans Psaume 16. Mais il n'en est rien. Le Seigneur Jésus a pris un corps comme nous, à part le péché, mais en dehors du péché, si on peut dire ainsi. Et il est notre modèle, bien sûr, parce que lui, il vivait pleinement par l'Esprit. Il était Dieu manifesté en chair.
Une courte remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous lisons en Romains 8, ce passage que nous connaissons bien. Que la solution que Dieu a trouvée pour notre chair de péché, c'est au verset 3, ce qui était impossible à la loi en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu, c'est un sujet admirable, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est quelque chose qui nous confond quand nous voyons que, pour répondre à ce que ça a été dit ce matin, Ernst August, tu as dit ce matin aussi, à juste titre, que les péchés ont été pardonnés, mais la chair n'est jamais pardonnable. Dieu a condamné le péché dans la chair. Quelle chose que de considérer que le Seigneur Jésus est venu en chair pour non seulement porter nos péchés, mais pour que le péché trouve une condamnation divine finale et qui nous libère de son esclavage.
Je ne voudrais pas retourner sur le verset en 1 Corinthiens 15, mais juste une pensée. On a lu « Toute chair », 1 Corinthiens 15, 39, « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes ». Si nous entendons le mot « chair », nous pensons souvent à ce qui est extérieurement. Mais la chair, c'est aussi ce qui est intérieurement, ce qui est dans nous. Par exemple, si nous avons faim, nous voulons manger. Si je suis un alcoolique, je veux boire une bière ou quelque chose d'autre. Là, on voit déjà, manger, c'est bien pour mon corps. Par contre, l'alcool, c'est pas bien. Maintenant, une pensée sur 1 Jean 4, verset 2. Très intéressant aussi. 1 Jean 4, verset 2. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens aujourd'hui ne savent plus pourquoi on a Noël. Pourquoi c'est la fête de Noël ? Cadeaux, neige, vacances, sport d'hiver. Mais nous, les chrétiens, nous savons Christ est venu comme bébé. Il est venu comme un homme. Et ici, c'est écrit, c'est très important. Je peux comprendre ça parce que ça m'a été instruit dans l'Église ou à l'école, mais je crois que ça va plus loin, ce verset. Nous devons comprendre vraiment ce mystère. le Seigneur Dieu est devenu homme. Ça, nous avons entendu Jean 1, 14. Mais homme, bébé, enfant, si nous voyons en Luc, tout est déjà la préparation, le problème avec Joseph, pas de place dans l'auberge. Quel mystère pour que Dieu se manifeste dans ce petit bébé. Et c'est très important pour nous de voir plus loin, pas seulement voir ce bébé à Noël. C'est pas important de voir une crèche et il faut vraiment avoir le petit bébé dans la crèche. Nous, les chrétiens, nous devons voir ça plus loin. Il est venu comme un homme, comme un petit bébé. Et puis, il est grandi. Il est grandi dans une famille. Il a tout vécu. Et puis, à l'âge de 33 ans, il est allé à la croix. Mais tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Est de Dieu, oui. Je ne peux pas le dire. Je pourrais le dire parce que mon papa me l'a toujours dit. Regarde le petit bébé dans la crèche. Mais si je l'ai compris parce que je suis né de nouveau, c'est l'Esprit Dieu qui me dit cela. Jésus venu en chair. Et c'est important. C'est important pour Dieu. Nous, créés par Dieu, mais Jésus-Christ, devenu homme, mourir à la croix comme un homme, mais sans péché. Il n'a jamais fait un péché, il ne connaissait pas un péché, et il n'a jamais fait un péché. Merveilleux.
Quelle chose merveilleuse! On a déjà mentionné celui par qui, pour qui toutes choses ont été créées, celui qui remplit l'univers, est venu là, parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, celui que nous avons vu, dit l'apôtre Jean, que nous avons touché, que nous avons entendu, qui était avec nous là. Il est la plénitude de la déité corporellement. La plénitude de Dieu, c'est plus à habiter en lui, dans un corps fait de chair. Et nous voyons que la parole le souligne, il n'y a pas de péché en lui. Il a un corps, mais il n'a pas de péché en lui. Il est venu en chair, mais il n'y a pas de péché en lui. Pour nous, c'est différent. Nous avons été enfantés dans le péché. Nous héritons de cette nature adamique. Donc nous avons, nous aussi, un corps. Mais notre corps, lui, il est caractérisé par la chair dans son caractère qui se corrompt, dans cette volonté. Parce que Adam et Ève avaient été aussi créés. Mais c'est à partir du moment où il y a la convoitise de la chair qui entre en action et qui engendre le péché que tout se gâte. Et c'est merveilleux de voir ce Seigneur Jésus, Dieu lui-même, en tant qu'homme, serviteur. Il s'est anéanti, il s'est abaissé, prenant la forme de serviteur. Et il utilise ce corps, on l'a dit tout à l'heure, pour se donner en sacrifice, mais avant la croix même, pour être un instrument de justice. Parce que le corps, notre corps fait de chair, de matière, c'est un instrument. C'est par le corps que nous parlons, c'est par le corps que nous agissons. Et ce qui est merveilleux, c'est que le travail de Dieu, à notre égard, nous qui sommes souillés à tous les niveaux de notre être, corps, âme, esprit, par l'œuvre de Christ, il nous a rachetés comme corps, âme et esprit. Non pas seulement l'âme, non pas seulement l'esprit, mais notre corps aussi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la chair, en tant que racine de péché, de convoitise, elle est condamnée. Dieu la mettra de côté un jour. Elle n'entrera pas au ciel. Mais notre corps va entrer au ciel. Après cette merveilleuse transformation, lorsque nous serons transformés en la conformité du corps de sa gloire. Et vous voyez comme le travail de Dieu, il est magnifique, il est complet. Et notre corps fait de chair sera transformé et nous allons entrer au ciel dans la présence de celui qui est ressuscité, le premier-né d'entre les morts, pour voir sa gloire. Mais, donc, cette partie matérielle, elle a été rachetée par Dieu. Mais, la chair en tant que racine de mal, en tant que convoitise, en tant que volonté opposée à celle de Dieu, elle est condamnée et elle n'a aucune part avec Dieu.
Nous avons donc parlé des deux natures, la chair et l'esprit. Ces deux choses sont totalement opposées. On l'a vu, la chair est foncièrement mauvaise. La vie par l'Esprit Saint n'est pas foncièrement bonne, elle est parfaite même. Mais nous agissons souvent comme s'il y avait une troisième nature. C'est-à-dire la chair spirituelle ou la chair religieuse. La chair spirituelle, ben voilà, ce sont deux termes qui s'opposent. Et pourtant, n'est-ce pas ce qui fait le plus de ravages dans les assemblées, dans nos familles? C'est ce mélange de la chair avec les choses spirituelles. Tous les problèmes de division, les problèmes dans une assemblée, viennent de ce que ces deux choses sont mélangées. Et le danger est, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Et n'est-ce pas le danger de chaque frère, de chaque sœur, mais de chaque frère, notamment tous les frères qui présentent la parole? Est-ce que, chaque fois que je parle, est-ce que c'est vraiment par l'Esprit Saint? Je peux dire des bonnes choses, je peux dire des choses qui sont vraies. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me pousse, ce n'est peut-être pas le bon moment. Et toute notre vie d'assemblée en découle. C'est que nous ne faisons pas la part ou que nous oublions souvent. Et nous avons des exemples dans la parole. Quand on pense à un Samuel qui doit choisir le prophète de Dieu, qui doit choisir un nouveau roi, mais il se trompe. Bon, on sait que du temps de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais ils agissaient quand même avec le Saint-Esprit qui venait sur eux. On voit le cas de Nathan, lorsque David lui dit je veux construire, et même le cas de David, je veux construire un temple à l'Éternel. C'était quelque chose de bien, c'était quelque chose, mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Et quand Nathan dit ok, ce n'était pas la pensée de Dieu non plus. Nous avons le cas de Pierre aussi, lorsque Paul doit le reprendre sévèrement. On a le cas aussi de Paul, lorsque les frères parlent par le Saint-Esprit, qui ne doit pas aller à Jérusalem, qu'il y va, qui fait ce vœu. On a tous ce danger-là. Il y a quand même un passage important dans la parole, c'est dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2. Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ, ou puisque vous êtes mort avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage, selon les commandements et les enseignements des hommes, qui ont bien une apparence de sagesse en dévotion volontaire et en humilité, et en ce qu'elle n'épargne pas le corps, ne lui rendant pas un certain honneur pour la satisfaction de la chair. Toutes nos traditions qui prennent parfois le pas sur la parole de Dieu, mais on peut comparer ça à la chair spirituelle. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Nous le savons, ce qui est de la chair est foncièrement mauvais, ce qui est du Saint-Esprit est bon. Mais quand on fait ce mélange-là, on ne se rend plus compte réellement si on ne se remet pas toujours en question. Et je parle d'abord pour moi. Je peux me lever chaque dimanche et parler de l'amour du Seigneur en citant tous les passages de la parole. C'est pas faux ce que je vais dire. C'est même très bien. Mais si j'oublie de parler aussi de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, mais il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et notamment dans une partie de la chrétienté évangélique, on parle beaucoup de l'amour du Seigneur, de l'amour de Dieu. Mais on ne parle pas de sa sainteté, de sa justice. Et donc on voit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est un danger pour nous aussi, les frères, de ne pas toujours faire attention. Est-ce que c'est bien le Saint-Esprit qui me pousse à me lever? Est-ce que c'est bien le Saint-Esprit qui me pousse à dire quelque chose? Il y a en nous toujours ce manque d'amour, ce manque d'humilité aussi. La chair, nous le savons, elle est là, elle est toujours là. Et ce n'est que par l'Esprit que nous pouvons la combattre. Alors, faisons attention à cette soi-disant troisième nature. Ce n'est pas bien sûr une vraie troisième nature, mais nous agissons souvent en mélangeant ces deux choses et cela fait beaucoup de dégâts. Cela fait beaucoup de dégâts. Et c'est aussi un sujet sur lequel on ne parle jamais. Je n'ai jamais entendu une réunion sur ce sujet-là. Et pourtant, que de dégâts ça ne fait pas dans nos vies, dans nos familles et dans nos assemblées. Parce que nous ne faisons pas une réelle différence entre le Saint-Esprit et entre la religiosité, entre la religion. Que le Seigneur nous donne de faire toujours plus attention à cela.
Je comprends ce que tu veux dire, mais je ne pense pas qu'il y a une troisième nature. Par contre, le problème, c'est où est-ce que le chrétien se trouve? Avant Romains 7 ou après Romains 7? Le gros problème, en Romains 7, on trouve 48 fois le mot « je »,« moi ». Et beaucoup de... Hein? Non? Pas juste? En Romains 7, parce que je me suis posé la question quand tu disais ça, comment est-ce qu'on peut changer ça? Où est la solution? Pourquoi c'est comme ça? Mais je pense, en Romains 7, il veut faire le bien, mais il fait le péché. Et à partir du chapitre 8 en Romains, c'est le travail du Saint-Esprit qui commence. Alors, est-ce qu'on ne peut pas mettre les chrétiens dans différents groupes? D'abord les non-chrétiens, ça c'est clair. Mais les chrétiens, est-ce qu'on ne peut pas les mettre dans différents groupes? Oui, peut-être convertis. Mais liés à quoi? Où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce qu'il a vraiment compris ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui, ce matin, et encore maintenant? Est-ce qu'il a compris qu'il est par lui-même, rien ne peut sortir de nouveau? Et en Romains 7, ce qu'il trouve en nous, en moi-même, ce n'est pas possible. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct. Et je pense, même intellectuellement, nous pouvons comprendre beaucoup de choses, peut-être le faire aussi intellectuellement, mais pas spirituellement, pas poussé par le Saint-Esprit.
Mais est-ce que le problème n'est-il pas aussi que on peut dépasser Romains 7, arriver à Romains 8, mais est-ce que c'est un état définitif? Est-ce qu'on ne peut pas justement retourner à Romains 7? C'est comme on a parlé de « je suis mort avec Christ ». On peut le comprendre, mais est-ce qu'on ne doit pas chaque fois revenir au fait d'être mort avec Christ parce qu'on l'oublie?
On peut peut-être essayer de donner un exemple de la physique. L'esprit, c'est un esprit de puissance. L'esprit, c'est un esprit de puissance. Et Cette puissance agit en nous, si nous la laissons faire, si nous sommes en communion avec le Seigneur, avec Dieu. Alors, en physique, si on a un appareil, un dispositif, prenons une lampe, et bien qu'il y a deux prises. Une prise s'appelle esprit et une prise s'appelle la chair. À un moment donné, nous avons peut-être raccordé notre lampe à la prise chair plutôt que de la raccorder à la prise esprit. Et quand on est, c'est une façon d'imaginer le fait qu'on peut être en Romains 8 et ne pas être en communion. Et donc l'esprit est empêché d'agir, et alors c'est la chair qui agit.
Est-ce qu'on ne voit pas là ce qui concerne ce dont la parole parle de qu'un chrétien peut être charnel, c'est-à-dire non pas dans la chair, bien sûr, mais la chair n'est pas mortifiée. Et probablement c'est ce à quoi tu fais mention et que nous devons prendre. Je le dis pour moi, sérieusement à cœur, ce que nous devons prendre sérieusement à cœur pour nous les frères, c'est que nous nous appliquions, bien sûr par la force que l'Esprit donne, mais à mortifier notre chair de telle façon et à nourrir le nouvel homme de Christ, de telle façon à ce que l'Esprit puisse avoir la liberté de nous conduire. Et je pense à un passage qui est aussi d'une extrême importance pour nous. Je veux l'appliquer pour moi en premier. C'est de, à chaque fois que Dieu nous utilise et que nous avons quelque chose à cœur, de nous mettre devant Dieu et de parler effectivement comme oracle de Dieu. C'est la mesure que Dieu nous donne.
Qu'est-ce qui a fait chuter Adam et Ève ? C'est quand Satan est venu leur dire « Vous serez comme Dieu ». En fait, la racine même du péché qui est en nous, c'est de vouloir, sans s'en rendre compte, mais de faire des choses par orgueil, par prétention, pour être comme Dieu. Tout à l'heure, on a lu dans Colossiens 2, et on voit ce côté « ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ceci et cela », parce que ça a une apparence de dévotion volontaire, une belle apparence. Et quelque part, les choses sont faites non pas en relation avec le Seigneur, mais elles sont faites en relation avec le fait que « regardez-moi, je suis un bon chrétien. Regardez-moi, je suis la droite ligne. » Et finalement, si on perd de vue le Seigneur Jésus, le modèle qu'il avait, eh bien, on tombe tout de suite dans des carcans ou des traditions, et en fait, on va tout droit à une forme de mort, de vie chrétienne morte, même si on n'est pas mort, mais la vie chrétienne est morte. Une autre chose, quelqu'un vient à nous et la chair, il s'est laissé fourvoyer par la chair et il est tombé dans un péché. Est-ce qu'on va régler le péché ou est-ce qu'on va, avec le Seigneur, essayer de voir que cette personne ait une relation avec le Seigneur et voir les moteurs qui ont fait que ce péché est arrivé ? Nous avons l'exemple du disciple Pierre. Bien sûr, il n'avait pas l'esprit, mais il avait dit au Seigneur, « Oh, mais si tout le monde t'abandonne, moi, je te suivrai jusqu'à la mort. » Et il a renié le Seigneur trois fois. Mais le Seigneur ne lui a pas dit, « Pierre, tu m'as renié. Pierre, tu m'as renié. » Non. Il lui a dit, « Pierre, m'aimes-tu plus que les autres ?» Et en fait, pour nous, c'est bien ça, c'est dès qu'on perd cette relation avec le Seigneur, la chair est en action. Dès qu'on perd l'action de l'Esprit en nous, la chair est en action. Et lorsqu'il y a une activité pastorale qui peut être faite auprès de quelqu'un qui a manqué, ce n'est pas d'arriver avec une tradition et en disant « mais quand on est chrétien, on ne fait pas ça ». C'est essayer de réchauffer le cœur et d'avoir cette connexion avec le Seigneur qui va redonner cette puissance de l'Esprit et qui va redonner vie à celui qui avait une vie bien, bien malade et bien fragile.
Peut-être il est utile de répéter quelques vérités fondamentales quand il est question de la chair. D'abord, la chair est toujours mauvaise. dans l'Épître aux Romains, par exemple. La chair est toujours mauvaise. C'est une racine en nous qui ne produit que des fruits mauvais. Une machine qui ne produit que des produits mauvais. Impossible. Toujours mauvais. Deuxièmement, la chair, cette source du mal et du péché, est en nous. Aussi en nous, les chrétiens. Au moment où nous quittons la terre, soit par la mort, soit par la venue du Seigneur Jésus, la chair n'est plus là. Mais tant que nous sommes sur la terre, la chair est en nous. Deuxième. Troisièmement, la chair est incurable. On ne peut pas améliorer la chair. Que dit le Seigneur Jésus ? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. C'est inutile d'essayer d'améliorer la chair. Impossible. Ce n'est pas possible. La chair est la chair et c'est toujours mauvaise. Quatrièmement, quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus, il marche toujours par la chair. Il est caractérisé par la chair. Nous avons lu dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 8, « Et ceux qui sont dans la chair, ce sont des incrédules, ne peuvent plaire à Dieu. C'est impossible. Or, vous les Romains, vous les croyants, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Un croyant n'est pas nécessairement caractérisé par la chair. Il est dans l'esprit. Il a reçu une nouvelle nature. D'ailleurs, c'est une expression qu'on ne trouve pas dans la Bible. La vieille nature, nous avons dit, c'est la chair. La nouvelle nature, cette expression est bonne, mais quand même, on ne la trouve pas dans la Bible. La nouvelle nature, c'est quoi ? C'est l'esprit ou la vie, n'est-ce pas ? Nous, chrétiens, nous sommes principalement caractérisés par l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. Mais, et ça c'est le cinquième et le dernier point, et c'est ce que Étienne a déjà évoqué, nous pouvons quand même être charnels. C'est une expression qu'on trouve par exemple dans l'Épître aux Corinthiens. Vous êtes charnels. Même comme chrétiens, nous pouvons vivre comme si nous étions caractérisés par la chair. Nous avons la nouvelle nature, nous avons l'esprit, nous avons la vie, nous pouvons vivre selon la vie, mais malheureusement, nous pouvons aussi être dirigés par la chair. Et la question qui se pose, qui dirige ma vie ? Et c'est une question qui se pose à chacun de nous. Je peux être spirituel et un moment après, je peux être charnel. C'est comme ça. Et tu as parlé de nos réunions et tu as absolument raison. Quand on entre dans une salle de réunion, la chair, est-ce qu'elle reste dehors ? À la garde-robe ? Non. La chair est toujours là. Moi, j'ai la chair et vous aussi. Et la question qui se pose, qui nous dirige ? On parle des deux natures. On nourrit quelle nature ? C'est une question de nourriture, prise de courant. Si je mange quelque chose qui nourrit la chair, je serai charnel. Si je nourris la nouvelle nature par la parole de Dieu, je peux être spirituel, dirigé par l'Esprit Saint.
Je n'avais pas l'intention de parler, mais à tout à l'heure, j'étais avec Jean-Philippe en train de manger. Et puis, je parlais sur deux choses à peu près dans le même sens de notre frère. Pour être dirigé à la réunion et présenter un repas à mes frères, si toute la semaine, je suis nourri et je suis au pied du Seigneur, quand je viens à la réunion, je porte quoi? La nourriture céleste. Le peuple en Égypte, il mange jusqu'au sol charnel de la terre. Mais quand ils ont allé au pays des Canaan, ils mangent autre chose. Bon. Que le Seigneur nous aide, c'est pas la connaissance, bien sûr, c'est important la connaissance. Moi aussi, le Seigneur qu'on nous dirige, que ce soit toute la semaine, après le culte, après dimanche, l'après-midi, on rentre à la maison, jusqu'à samedi, est-ce que toutes nos pensées, est-ce que toute notre marche, selon le Seigneur? Deuxièmement, quand toute la semaine, je pense aux choses du monde, comment je viens à la réunion, c'est pas switch on et off. La vie chrétienne, c'est pas comme ça. Si je suis nourri et devant le Seigneur, si je porte de peu de choses pour les amis, c'est une nourriture. Donc le Seigneur nous aide, comme mon frère l'a parlé, qu'il soit rempli par le Saint-Esprit. Toute la semaine, je pense aux choses qui concernent les choses, le Seigneur. Malachie 3,16, qu'est-ce qu'on parle? Parlant les uns aux autres. Les choses, bien sûr, que concernent le Seigneur. Que le Seigneur m'aide, le premier, quand je me lève pour porter quelque chose, que ces choses, je l'ai reçu de sa part. Et quand je reçois quelque chose de sa part, forcément, c'est édifiant.